Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une nouvelle journée de traque commence en France et en Allemagne. Plus d'un millier de policiers et gendarmes sont mobilisés pour retrouver Shérif Shekat, le principal suspect après l'attaque à Strasbourg près d'un marché de Noël. Il a des liens avec l'Outre-Rhin, vous l'entendrez. Alors qu'hier soir, les Strasbourgeois se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes.
Le tireur présumé toujours en fuite, alors qu'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes se profile ce samedi, de nombreux élus appellent les manifestants à suspendre leur mouvement. Nous y reviendrons.
Dans cette édition encore, état des lieux de l'Union européenne et de leurs dirigeants en ce moment. Entre la Britannique Theresa May sur la sellette et l'Allemande Angela Merkel sur le départ, Emmanuel Macron est aussi en mauvaise posture.
Et pendant ce temps, le Hongrois Viktor Orban réforme la loi du travail dans son pays. Un patron pourra désormais demander à ses salariés de travailler 400 heures supplémentaires par an. Nous irons à Budapest.
Dans ce journal, après ce journal dans un quart d'heure, dans son billet politique, Frédéric Sey se demandera s'il est permis de dire du bien des responsables politiques. 29 ans, 1m80, corpulence normale, cheveux courts, peau mate, marque sur le front. La police nationale lance finalement un appel à témoins pour retrouver Shérif Shekat, l'auteur présumé de l'attaque avant-hier soir à Strasbourg. Le tireur a tué deux personnes, une autre est en état de mort cérébrale. 13 passants par ailleurs ont été blessés près d'un marché de Noël dans le centre-ville. Il est depuis 36 heures maintenant en cavale, ce tireur, recherché activement par plus de 700 policiers en France, mais également en Suisse et surtout en Allemagne, où il pourrait avoir cherché à fuir Ludovic Piétenu.
La population allemande est invitée à appeler le 110 en cas d'information. L'appel à témoins de la police française avec la photo de Shérif Shekat est largement diffusé dans le pays. En plus d'un contrôle minutieux ininterrompu des véhicules au point de passage frontalier depuis mardi soir 21h, plusieurs centaines d'hommes, des forces spéciales, des unités antiterroristes, secondent avec leurs blindés et leur matériel sophistiqué, les policiers du Bade-Wurtemberg, le land allemand de l'autre côté du Rhin, face à Strasbourg et l'Alsace. Dans les deux autres länder frontaliers, au nord, la Saar et la Rhénanie-Palatinat, même mobilisation massive des polices locales et fédérales, on est là dans un périmètre où le tireur de Strasbourg a eu ses habitudes, des relations, peut-être encore aujourd'hui, des appuis. C'est aussi là qu'il a commis au moins deux cambriolages avant de passer par deux prisons allemandes, d'en sortir début 2017, d'être interdit du territoire pour 10 ans et expulsé vers la France. Mais aujourd'hui en fuite, Shérif Shekat n'a que faire d'une interdiction de circuler en Allemagne et les autorités ont révélé que peu de temps avant son passage à l'acte, il a reçu un appel venant de l'autre côté du Rhin. Il y a donc un possible réseau à commencer, soupçonnent les autorités allemandes, par son grand frère, Sami Shekat, 34 ans, fiché S et lui aussi introuvable.
Un frère en fuite, notons que deux autres frères sont en garde à vue ainsi que les parents de Shérif Shekat. Lui et l'un de ses frères sont donc fichés S comme sûreté de l'État, un outil de surveillance des islamistes qui ne suffit pas à neutraliser une menace terroriste. Voilà ce que souhaite rappeler sur notre antenne, sur France Culture, l'avocat Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. La fiche S, dit-il, recouvre plusieurs réalités.
Il y a différents degrés de fiche S. À chaque fiche S est associée une conduite à tenir. En réalité, la dangerosité des gens est évaluée par un autre fichier que le FSPRT, qui est le fichier qui recense tous les gens de radicalisation à caractère terroriste. Et là, pour faire très court, il y a des réunions hebdomadaire dans chaque département pour évaluer la dangerosité de chacun des membres qui est fiché au FSPRT du département. Et ensuite, on assigne aux uns ou aux autres des moyens de surveillance. Il y a le haut de spectre qui est pris en charge par la DGSI, les gens dont on considère qu'ils sont un peu moins dangereux, qui sont pris en charge par le renseignement territorial. Encore une fois, il y a des exceptions, je fais à très gros traits. Toute la difficulté, c'est que nous avons des services qui sont efficaces, il y a eu beaucoup d'attentats déjoués, mais qui sont sous-dimensionnés humainement et matériellement face à l'ampleur de la vague des gens qui sont susceptibles de passer à l'acte. Bon, il faut le dire et le répéter, le nombre d'islamistes dangereux en France est un nombre extrêmement élevé et à budget constant par ailleurs, c'est impossible de les surveiller tous.
Thibaut de Montbrial, interrogé par Stanislas Vazak, le tireur présumé, rappelons-le, a déjà été condamné 27 fois pour des vols et des violences en France, en Allemagne et en Suisse. À Strasbourg, par mesure de sécurité, le marché de Noël restera fermé une fois encore aujourd'hui. Dans ce contexte de traque, les Gilets jaunes vont-ils manifester ce samedi après-demain pour leur acte 5, cinquième week-end de mobilisation? Ce matin, le syndicat de police Alliance appelle les manifestants à le suspendre. Sur le sujet, les Gilets jaunes se divisent et la classe politique également, Stéphane Robert.
plusieurs responsables politiques appellent les gilets jaunes à la raison. À droite notamment, le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin.
Il ne faut peut-être pas ajouter du chaos au chaos dans ce contexte où la sécurité de chacun doit être assurée. Je pense qu'effectivement, samedi, il ne serait pas très sage d'aller continuer à manifester.
Un appel à la raison également relayé par le pouvoir exécutif, en particulier hier matin par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
Il me semble que des réponses sont apportées. Oui, je pense que le mouvement doit cesser.
Cette parole officielle a eu pour effet d'alimenter les théories complotistes apparues quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Théories qui disaient en substance que l'attaque avait été soit organisée, soit inventée par le gouvernement pour essayer de stopper le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui, selon le député La République En Marche de la Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebari, est vraiment inquiétant.
Moi, je crois que c'est un mal de notre époque. Quand vous regardez, on est à la fois la société la mieux informée du monde et de tout temps, et la société la plus perméable, la plus vulnérable aux fake news et aux théories du complot. Donc c'est pas simple, et effectivement on voit que parfois la désinformation devient l'information.
À gauche du coup, on a compris qu'il y avait un problème, et beaucoup, à l'instar du député communiste André Chassaigne, se sont gardés de donner une consigne ou même un conseil.
Je n'irai pas apporter une appréciation sur ces questions-là. C'est à eux de décider de la suite de leur mouvement. C'est pas à nous de dire aux gilets jaunes, il faut faire ci, il faut faire ça.
Au-delà des seules questions de sécurité, la conjonction de ces deux événements, attaque terroriste et mouvement des gilets jaunes, interroge sur la défiance croissante vis-à-vis de la parole publique et de la parole politique et sur le rapport à la réalité d'une partie de la population.
Politiques, journalistes et citoyens, les défis de la défiance, nous en reparlerons après ce journal avec l'invité des Matins de France Culture, le directeur général délégué d'Ipsos, Brice Teinturier. Si donc, et vous l'avez entendu, une partie des élus évoque la raison, appellent au calme, certains souhaitent marquer leur désapprobation face à la réponse du gouvernement aux gilets jaunes. La gauche défendra ainsi cet après-midi à l'Assemblée nationale une motion de censure pour la deuxième fois de ce quinquennat Macron. Le texte sera débattu dans l'hémicycle en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Et la discussion devrait durer 2h30, Alexandra Dubouchereau.
Les règles du débat ont été fixées hier par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Chaque groupe aura droit à 15 minutes, 5 pour les non-inscrits dont fait partie le Rassemblement national. Le communiste André Chassaigne, à l'origine de cette motion, ouvrira le bal dès 16h30. Le Premier ministre s'exprimera ensuite et puis ce sera au tour des autres responsables de groupe selon l'avantage numérique, en commençant donc par La République En Marche. En 5e et 7e position viendront les deux autres co-signataires de cette motion, les socialistes et la France Insoumise. Alors cette motion de censure est une motion dite spontanée, comme le décrit l'article 49 alinéa 2 de la Constitution. Elle doit être déposée par au moins un dixième des députés. Ici, il y en a eu 62. L'autre motion dite provoquée est plus connue sous le nom de 49-3. Elle permet au gouvernement de faire passer un texte de loi sans vote. Si cette motion spontanée est adoptée, le résultat sera connu avant 20h. Le Premier ministre devra remettre au président de la République la démission du gouvernement. Mais pour cela, il faudrait qu'elle recueille 289 voix. Or, la majorité dispose de 312 sièges et ni LR ni l'UDI ne voteront pour. C'est donc un faux suspense. En fait, sous la 5e République, sur plus d'une centaine de motions de censure déposées, une seule a été validée. C'était en 1962 contre le suffrage universel direct. Elle avait entraîné une dissolution de l'Assemblée nationale.
8h08 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Au Royaume-Uni aussi, un vote de défiance était organisé.
Ah oui, hier soir contre Theresa May, un vote là au sein de la majorité et les conservateurs ont finalement maintenu la première ministre britannique à son poste avec 200 voix pour, 117 députés ont voté contre. Preuve tout de même que Theresa May reste fragilisée par les questions du Brexit et de l'accord qu'elle a négocié avec l'Union européenne. Elle se rendra d'ailleurs ce soir à Bruxelles pour rencontrer les dirigeants européens, car Antoine Gignot, la Britannique veut obtenir des concessions sur la frontière irlandaise.
Pas question de rouvrir les négociations, mais Theresa May espère convaincre les dirigeants européens de signer une déclaration commune. Un texte sur l'avenir de l'Irlande du Nord, capable de rassurer les eurosceptiques et les députés unionistes irlandais, 10 élus au total, qui craignent de rester enfermés avec leurs voisins de République d'Irlande dans l'union douanière et qui bloquent totalement le processus du Brexit. Mais même s'ils changent d'avis, la Première ministre a aujourd'hui très peu de chances de faire valider par le Parlement l'accord qu'elle a négocié avec avec Bruxelles. Pour sauver sa tête, elle a promis de démissionner avant les prochaines législatives, le temps de lancer le processus de sortie de l'Union européenne. Mais plusieurs élus réclament son départ immédiat et la gauche attend que la crise s'amplifie pour passer à l'attaque. C'est un dessin dans le Télégraphe qui résume le mieux la situation ce matin. Un fonctionnaire du Downing Street passe une tête dans le bureau de Theresa May et pose cette question. Est-ce que c'est vraiment la peine qu'on commande des agendas pour l'année 2019?
Theresa May sur le fil donc, et le tableau n'est pas plus brillant de l'autre côté de l'Union européenne. Lors du Conseil européen ce jeudi à Bruxelles, Français et Allemands vont apparaître assez affaiblis. L'Europe se cherche désespérément un leader en cette fin d'année, Bertrand Galichet.
D'abord, il y a Emmanuel Macron, bien sûr, pris sous le feu croisé des projecteurs en Europe, à cause des émeutes et des manifestations de gilets jaunes, mais aussi pour avoir répondu à une partie de leurs revendications, au risque de laisser déraper le déficit budgétaire de la France. Pas facile, dans ces conditions, d'afficher son ambition de refondateur de l'Union européenne. Et puis, il y a Angela Merkel, la chancelière sans qui rien d'important ne se décide en Europe, a choisi de ne pas accabler la France pour éviter de jeter de l'huile sur le feu, dit-on en coulisses à Berlin. Mais il lui sera difficile de reprendre la main pour de grandes réformes en Europe. Après avoir renoncé à la présidence de la CDU, son aura politique faiblit. Face à Emmanuel Macron et Angela Merkel, les partis populistes en Europe sont en embuscade. Ils pourraient entrer en force dans le prochain Parlement européen dans moins de 6 mois. Aujourd'hui et demain à Bruxelles, l'Europe fragilisée termine l'année tant bien que mal, avec comme seul horizon les incertitudes liées au Brexit.
Bertrand Galichet, qui évoquait à l'instant les populistes en embuscade. En Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban continue sa politique souveraine. Il met en place une réforme de la loi du travail, réforme décriée. Elle augmente notamment le plafond du nombre d'heures supplémentaires. Certaines dispositions ont été votées hier au Parlement et près de 2000 personnes sont allées dans la foulée manifester devant le bâtiment à Budapest. Alors qu'à l'intérieur du Parlement aussi, la tension était palpable, Florence Labruyère.
On n'avait jamais vu un tel chaos au Parlement hongrois. Les députés d'opposition ont tenté de bloquer le vote en sifflant pendant de longues minutes devant un Viktor Orban narquois, mais qui avait tout de même fait venir ses gardes du corps dans l'hémicycle. L'opposition n'a pas pu empêcher l'adoption des lois par la majorité de droite du Premier ministre. Un vote entaché de fraude, selon la députée d'opposition Timea Szabo, car les parlementaires n'ont pas utilisé leur carte électronique individuelle, pourtant requise par le règlement.
Le vote est totalement illégitime. On ne peut pas voter sans carte électronique, car à ce moment-là, un député de Fidesz peut très bien appuyer sur le bouton à la place d'un autre qui est absent.
La première loi crée un nouveau tribunal, une cour suprême dont les juges seront nommés et contrôlés par le gouvernement. C'est un coup de boutoir à l'indépendance de la justice. La deuxième loi, elle, réduit les droits des salariés. Elle autorise les heures supplémentaires dans le secteur privé jusqu'à 400 heures par an. L'employeur pourra payer ces heures 3 ans après qu'elles aient été effectuées. Des termes inacceptables pour l'ensemble des syndicats. Plus de 80% des Hongrois sont opposés à cette loi, surnommée la loi sur l'esclavage.
Serait-ce une conséquence de l'arrestation de la directrice financière du groupe chinois Huawei fin novembre au Canada? En tout cas, un deuxième ressortissant canadien a, selon Ottawa, disparu en Chine. Les autorités chinoises, elles, expliquent que l'homme est soupçonné d'activités menaçant la sécurité nationale du pays. L'industrie du jeu vidéo se porte très bien. La production cette année a presque doublé, plus 43% selon le baromètre annuel du jeu vidéo en France publié hier soir. Une production et des emplois qui vont avec, puisque 59% des entreprises du secteur comptent embaucher l'année prochaine. Reste toutefois un point noir, les femmes sont peu nombreuses au Dread Humain.
Oui, le baromètre ne compte que 14% de femmes dans les studios de développement de jeux vidéo, seulement 1,5 point de plus que l'année dernière, et ça manque à l'industrie pour Julien Villedieu du Syndicat National du Jeu Vidéo.
C'est pas satisfaisant d'abord pour la diversité au sein de nos équipes, mais aussi pour la diversité dans la création. Les équipes mixtes, on le sait, ont plutôt tendance à créer des jeux qui sont effectivement des jeux qui sont plus intéressants et une narration qui est plus intéressante lorsqu'elle existe et l'interactivité qui est proposée est aussi plus intéressante.
Pourtant, aujourd'hui, un joueur sur deux est une femme, mais elles n'en font pas une vocation. Les raisons sont multiples. Nadia François est membre fondatrice de l'association Women in Games.
Les filles ont un intérêt parfois très jeune, dès le collège, dès le lycée, mais se retrouvent confrontées à des freins qui peuvent être peut-être des freins de leur entourage pour les orienter vers d'autres carrières un peu plus classiques, peut-être plus genrées, ou alors des soucis concernant l'accès aux formations.
L'association créée il y a plus d'un an a donc pris les devants avec le syndicat national du jeu vidéo. Ils se rendent dans les écoles pour présenter les différents métiers. Les débouchés sont nombreux, mais encore faut-il le savoir.
L'un des objectifs de l'association est de montrer la diversité des métiers qui existent au sein de l'industrie, comme preneur de son, par exemple, comme testeur. On va, par exemple, développer la possibilité d'offrir des stages à des jeunes filles au sein de studios de développement français.
Les femmes sont encore trop peu nombreuses, mais les mentalités évoluent dans cette industrie très masculine, selon l'association, et ça se ressent dans les contenus des jeux vidéo qui montrent une autre image de la femme. Le personnage emblématique de Lara Croft, par exemple, a évolué au fil des années.
Fini en effet aujourd'hui, ou presque, la mise en avant de ces formes généreuses. Des femmes font bouger les choses dans l'industrie du jeu vidéo. C'est un entretien que vous pouvez retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. Le temps de ce jeudi sera marqué par l'arrivée de pluie par l'ouest et par le sud du pays. Partout ailleurs, les éclaircies seront plutôt belles, mais fraîches encore, avec 0 degré ce matin à Lyon, 1 degré à Paris et à Lille, comptez 2 degrés à Rennes, 7 à Bordeaux, 9 près de la Méditerranée.
Merci Clara Lecoq-Réalier.